Bonne journée tout le monde. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. Dans 2 mois, c'est le printemps officiellement. On est à 2 mois, effectivement, du 20 mars et ce sera la journée du printemps. Vite, vite, comme ça, je vous préviens tout de suite. À 11h05, nous aurons une heure spéciale où nous allons couvrir, bien sûr, la sermentation du nouveau président des États-Unis, Joe Biden. J'aurai toute une brochette d'invités à vous proposer pour faire un peu le tour de la question. Je vais vous demander si vous pensez que M. Biden et Kamala Harris, qui est une francophile et qui connaît bien le Québec pour avoir été à l'école 5 ans à Montréal, entre autres. Est-ce que vous pensez que la nouvelle équipe va améliorer nos relations avec notre premier partenaire commercial, les Américains? Vous me le direz tout à l'heure. On aura largement l'occasion, avant l'assermentation de l'équipe Biden, de vous entendre là-dessus. Évidemment, mon collègue Paul Arcand a bien mis la table pour notre premier sujet de cette émission. On va parler des voyages parce que, voyez-vous, c'est intéressant. Nous, on s'en est parlé, vous et moi, la semaine dernière. On a probablement été les premiers à faire une discussion là-dessus. Discussion qui avait été fort intéressante. Vous me disiez que, bon, pour la plupart, vous alliez respecter la recommandation de pas voyager, même si, visiblement, il y a encore beaucoup de Québécois qui voyagent. Et là, il y a toute la question des tout inclus. On a vu toutes ces images qui, pour les uns, peuvent être extrêmement choquantes. Pour les autres, ben coudon, on est tous écœurés. Mais ces images de touristes dans des tout inclus qui font la fiesta sans distanciation, sans masque, et qui se transforment finalement en risque potentiel de nous ramener la COVID ici. C'est pas parce que tu vas à l'extérieur du pays que tu rentres et que tu l'as forcément, ce virus-là, mais c'est sûr que ça peut augmenter le risque de contagion. À cause de ça, depuis une semaine, évidemment, le ton s'est durci au fédéral comme au provincial. D'ailleurs, hier, vous avez entendu le premier ministre Justin Trudeau nous dire que c'était pas une bonne idée que d'aller dans le sud.
Quand je dis que tout le monde doit faire sa part, je m'adresse aussi aux voyageurs. C'est pas le temps de voyager à l'étranger. Si vous aviez prévu de quitter le pays, s'il vous plaît, au nom de tous les Canadiens, annulez. Ça vaut pas la peine d'attraper la COVID-19 et de la ramener au Canada pour un voyage dans le sud ou ailleurs.
Évidemment, on est encore au stade de « s'il vous plaît, allez-y pas ». Et pour le premier ministre du Québec, c'est pas suffisant.
Qu'une personne décide d'aller à Punta Cana ou à Cancun dans un tout inclus avec la situation qu'on vit au Québec, risquer de ramener le virus ici et se retrouver à engorger nos hôpitaux, j'avoue que je ne comprends pas. Je pense qu'il est temps d'agir. Donc, aujourd'hui, je demande à M. Trudeau, gouvernement fédéral, d'interdire rapidement tous les vols internationaux qui sont non essentiels.
Et là, le problème, c'est qu'est-ce qui est un voyage essentiel et qu'est-ce qui n'en est pas un? Évidemment, si on avait une liste de choses qui sont essentielles, ça serait pratique. Même dans les magasins, le gouvernement n'a pas été capable de dire aux grandes surfaces, par exemple, ou même aux petits détaillants, voici la liste des essentiels. C'en est même un problème. Chacun y est allé de sa compréhension. Alors, pour les voyages, c'est pareil. Il y en a qui vont dire, ben moi, mon voyage est essentiel. Prenez le cas là, du député Youri Chassin, par exemple. Ben là, on vient d'entendre François Legault qui dit « Moi, je comprends pas le monde qui part comme ça en voyage, mais en même temps, puis je pense qu'on comprend qu'il parle surtout des gens qui vont dans le sud, dans les tout-inclus, mais en même temps, il a permis à son député Chassin de partir rejoindre son conjoint pendant plusieurs semaines au Pérou. Puis en même temps, je dis pas que ce voyage-là, c'était pas essentiel. En même temps, moi, je comprends tout à fait que des voyageurs qui disent il y en a plein d'exemples de Québécois qui partent pour une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, et qui, au retour, disent « Bien, je vais la faire, ma quarantaine, puis je vais respecter les règles. » Puis sincèrement, au retour, tu as un test, il est négatif, puis oui, il peut peut-être y avoir des faux négatifs, mais sincèrement, le risque zéro n'existe pas. Mais il y a des gens qui sont capables de vivre avec ça. C'est tous ceux qui ne respectent pas ça. Et vous avez été nombreux à m'écrire au cours des derniers jours pour me dire « Mais moi, mon patron, là, il revient de Cuba. » La veille, il était dans l'avion, puis le lendemain, il est au bureau. C'est ça qui marche pas. On va en discuter parce que je veux avoir votre opinion là-dessus. 514-790-9850 et de l'extérieur de la grande région de Montréal, un peu partout au Québec, vous faites le 1-866-790-9850. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on interdit les voyages non essentiels? Est-ce qu'on interdit, par exemple, la vente de ces forfaits? C'est vrai que c'est attrayant, là, t'sais? Caillou coco à 779$, c'est bien tentant. Hein? On va en discuter tout de suite avec une propriétaire d'agence de voyage, Tina Beaulieu de l'agence NTR. Bonjour Tina.
Oui, bonjour, Madame Maréchal.
Ça fait 33 ans que vous avez votre agence, 40 ans que vous êtes dans l'industrie. Comment vous voyez ça, vous, Tina? C'est intéressant parce que je pense que vous avez une opinion qui va peut-être étonner nos auditeurs.
Oui, effectivement. Écoutez, nous, en tant qu'agent de voyage, c'est certain que moi, je peux confirmer qu'à destination, soleil, sud, Caraïbes, les gens sont en sécurité, les complexes hôteliers respectent vraiment les règles sanitaires et tout. Mais quand on entend nos politiciens aviser nos clients de ne pas voyager, nous, depuis le mois de mars 2020, malheureusement, le domaine du voyage a été très, très, très touché, comme tout le monde le sait, on travaille vraiment pour rien. Moi, j'ai plusieurs clients là qui veulent tous annuler à la demande de M. Trudeau. Et je comprends tout à fait, c'est tout à fait normal. Les gens qui devaient partir en mars veulent annuler leur voyage. Alors, nous, en tant qu'agents de voyage, écoutez, ça va faire bientôt un an là, qu'on travaille vraiment, vraiment pour rien. Moi, je me dis, en tant que conseillère en voyage, je suis propriétaire de mon agence, mais je suis aussi conseillère en voyage, et je donne un excellent service après-vente. Alors, c'est sûr que les clients qui sont aussi bien à destination, qui nous appellent, qui manquent leur vol parce qu'ils n'ont pas eu leur résultat de test à destination à temps pour prendre leur vol, moi, personnellement, j'aimerais mieux que, oui, les vols non essentiels soient annulés. Par contre, je comprends tout à fait aussi les gouvernements qui ont vraiment, c'est une roue qui tourne. Si les compagnies aériennes doivent annuler leurs vols, c'est certain que plein de... Ben écoutez, c'est vraiment là, quelque chose. C'est pas, ça se fait pas en criant.
Mais ce que vous voulez dire, Tina Beaulieu, c'est que s'il y a une interdiction de voyager et que finalement, c'est les compagnies aériennes puis les transporteurs, bon, et même les agents de voyage qui ne peuvent plus, par ordre du gouvernement, fonctionner, ben ça sous-entend que le gouvernement va devoir, fédéral, là, s'entend, va devoir les dédommager pour ça. Or, on sait que ça fait des mois que les transporteurs se plaignent, qu'ils n'ont pas l'aide financière qu'ils devraient avoir. Même vous, comme propriétaire d'agence de voyage, vous roulez à combien là, de vos revenus habituels, Tina?
Moi, je vais vous dire que j'ai baissé au moins de 97 % de mon revenu annuel, que j'ai moins de ventes cette année. Mais vous savez que c'est une équipe, là, je suis pas tout seul, moi, dans la boîte. Là, mes agents, mon équipe et moi, depuis le mois de mars passé, je vais vous dire que c'est... Écoutez, c'est indiscutable. Le chiffre d'affaires a baissé. C'est sûr qu'on a un petit peu d'aide des gouvernements, mais là, c'est qu'on travaille, comme je vous dis, mon équipe et moi, à vendre des voyages et à les annuler. Les gens réservent avec leur crédit voyage et on doit les annuler. J'ai des compagnies aériennes encore qui m'ont annulé des voyages pour février. Les vols ont été annulés. Il faut les comprendre aussi, ces compagnies-là, quand ils partent avec un vol à 50 % au lieu de partir avec un vol en pleine capacité, ils ne peuvent pas arriver, alors ils cancellent leur vol. Mm-hmm. Et c'est tout à fait normal. Ou bien la compagnie nous appelle, le vol devait avoir un vol direct, et là, le vol passe via Toronto. Les clients ne sont pas, je les comprends aussi, la clientèle, ils pensaient partir sur un vol direct, ils partent un vol via Toronto. Donc, toutes ces petites choses-là que nous, les agents de voyage, on travaille vraiment pour rien. Donc, oui, c'est certain que s'ils annulent les vols, moi, c'est mon opinion à moi. Je sais qu'il y a d'autres agents qui vont dire le contraire, mais moi, en tant qu'agent et de conseillère et donnant un service après-vente, le 9 janvier, j'ai des clients qui étaient à Punta Cana, ils avaient passé leur vol, ils avaient passé leur test le PCR, 72 heures à la demande, comme c'était censé, et la journée de leur vol, ils n'avaient pas eu leur résultat. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous pensez j'ai fait, Mme Maréchal? J'ai passé la journée au téléphone pour essayer de dépanner mes clients à destination. J'ai appelé à la clinique, j'ai parlé au laboratoire. Pourquoi que mes clients n'avaient pas reçu leur résultat? Donc, les clients ont perdu leur vol, ils ont revenu sur le vol du lendemain. Ça, je vais vous dire, c'est la compagnie aérienne qui ont été très, très, très gentil de rembarquer les clients sur le vol du lendemain. Mais mettez les clients, là, mettez-vous à la place des clients qui sont à destination. Mm-hmm. Ils sont à l'aéroport, ils attendent leurs résultats. Ils n'ont pas de résultats.
Mm. Ah non, mais c'est devenu difficile.
C'est nous, en tant qu'agents, là, c'est très, très difficile. Fait qu'en tant que conseillère en voyage et donnant un service à notre clientèle comme on veut le faire, autant après-vente, c'est très difficile pour nous de gérer le tout, là. Autant que les clients qui sont à destination.
Là, je comprends, vous m'avez dit, j'ai perdu 97 % de mes ventes. À 3 % oui. À rouler à 3 %, là, ça paye même pas les frais fixes, Tina Beaulieu, de votre agent. J'imagine que dans le fond, vous seriez mieux fermé puis qu'on compense votre industrie. Oui. Là, j'imagine s'il y a d'autres propriétaires d'agences là, qui vivent la même chose, appelez-moi là, puis dites-moi comment vous le voyez. Êtes-vous d'accord avec Tina qui dit, dans le fond, on devrait interdire les voyages non essentiels jusqu'à la fin mars? 514-790-9850. De toute façon, la frontière terrestre est toujours fermée jusqu'au 21 février. Fait qu'on se dit, comment ça fait qu'il y en a une de fermée pour les voitures, mais on peut prendre quand même des avions. Il y a quelque chose ici là, qui n'est peut-être pas très cohérent. Mais Tina, vous seriez aussi bien fermée, dans le fond, non? Tant qu'à travailler pour rien comme ça, puis à stresser.
Oui, effectivement. Mais moi, je me compte quand même chanceux que ça fait 33 ans que j'ai mon entreprise. J'ai une équipe qui travaille avec moi depuis de nombreuses années. Nous sommes capables de passer peut-être cette crise-là encore quelques mois. Ouais. Mais c'est sûr qu'il y a des agences qu'ils ont quand même des loyers très, très élevés, qu'ils ont des bannières et tout ça. C'est certain qu'on n'est pas tous dans la même situation, vous comprenez?
Mais tout à fait.
Moi, je parle pour moi, là. Tu sais, je suis quand même, comme je le dis, ça fait quand même 40 ans, je suis dans le domaine du voyage, là. Fait que c'est certain que c'est pas nouveau. Mais je sais plus quoi vous dire. Malheureusement, on est vraiment dans une, je sais plus, dans un cyclone là, qui se passe. Mais moi, c'est sûr que mes clients à destination, je les comprends de vouloir revenir, ou je comprends aussi ceux qui ont réservé pour le mois de mars qui veulent annuler avec la demande du gouvernement.
Tout à fait. Mais quelqu'un qui vous appelle ce matin, Tina, puis qui vous dit, « Hey, moi, j'ai vu 779$ avec Air Canada, aller à Caillou-Coco, tu me bouquerais-tu pour deux personnes? » Qu'est-ce que vous y dites?
Moi, je le décourage pour pas qu'il boucle, malheureusement.
Est-ce que vous y arrivez? Parce que Justin Trudeau puis François Legault n'y arrivent pas, mais êtes-vous plus arrivez-vous à convaincre les gens? Plus convaincant?
Écoutez, il y a des gens que ça fait deux voyages qu'ils réservent et qu'on les annule. Donc, c'est certain. Puis là, je vais vous dire, de moins en moins, j'ai d'appels, surtout depuis hier, avec la demande des gouvernements, c'est tout à fait normal. Mais moi, je vais vous dire, j'aime mieux pas vendre de voyage cette période ici qu'en vendre et être inquiet quand les clients sont à destination, est-ce qu'ils vont revenir et tout ça.
Peut-être que le meilleur argument, vous êtes en train de me dire, Tina Beaulieu, c'est de dire aux clients qui ont encore l'intention de partir dans des tout-inclus, regardez attention, là, si vous partez puis que le vol est annulé, vous perdez tout votre argent. Le porte-monnaie, là, quand tu commences à y toucher, ça a toujours un petit impact.
Et quand je vais en voyage, je le fais signer quand même un formulaire. Mon formulaire est vraiment décourageant, là, mais les clients, ceux qui veulent vraiment partir, le signent. Ils sont vraiment conscients de tout ce qui se passe. Là.
OK, mais vous me direz, tiens, après la pause, c'est quoi qui contient de décourageant votre formulaire? Est-ce qu'on a le temps de parler vite à Stéphane avant la pause? Bonjour Stéphane.
Oui, bonjour, ça va bien?
Oui, on vous écoute.
Ben oui, moi, je suis allé en vacances. Je suis parti le 4 décembre au 18.
Ouais.
Je suis allé à Porto-Plata.
Mm-hmm.
Puis, on passe un test à l'aéroport en arrivant. Ils dépistent tout de suite à l'aéroport en arrivant.
Lequel aéroport? Ici, vous dites, ou là-bas?
Non, là-bas, à Porto-Plata.
Oui.
D'après ça, ça prend 5 minutes. Tandis que quand tu reviens à Montréal, ils te donnent une feuille, arrive Canada, mm-hmm. pour remplir ton code. Mais la feuille qu'il y a, c'est que c'est vague, parce que ça dit, vous avez 48 heures pour vous rendre chez vous. Fait que j'ai dit au douanier, moi, il faut que j'aille chercher des pelules à la pharmacie. Le douanier m'a répondu, vous avez 48 heures pour vous rendre chez vous. Fait que ça veut dire que ça, que le monde, là, t'as 2 jours, tu peux faire ce que tu veux, mais pourvu que tu ailles chez vous après 2 jours.
Comment ça, vous avez 48 heures pour vous rendre chez vous?
Ben, c'est marqué sur la feuille. Ouais. Parce qu'il y en a qui restent sûrement loin, tu sais. Il y en a qui restent bien au lac Saint-Jean, de l'affaire là. Fait que là, ils donnent 2 jours, parce que ça veut dire que tu peux aller au motel.
Ouais.
Tu peux aller dans une épicerie, tu peux te promener, puis je suis sûr qu'il y en a qui font ça.
Mais normalement, puis je suis au courant de ce que vous dites, là, et je connais des gens qui l'ont vécu, puis qui effectivement, tu sais, des fois, on parlait là, avec Tina, là, du fait que des fois, tu pars de Toronto, fait que tu reviens de Toronto, là, tu dois faire Toronto-Montréal ou Toronto-Québec, fait que c'est sûr, normalement, t'es pas supposé arrêter, justement. Là, il y a toute la question, donc tu fais l'essence, tu prends l'essence, mais t'es pas supposé d'aller à l'hôtel, t'es supposé juste rouler puis de retourner chez vous. Ça doit faire partie de ton plan de quarantaine, mais ça fait partie aussi des choses que les gens respectent pas forcément, là.
C'est ça, c'est point A, point B que t'es supposé de faire, mais c'est pas vrai que le monde pour point A, point B.
Ouais. Vous feriez quoi, vous, Stéphane? Vous diriez quoi? Êtes-vous d'accord avec le ton plus dur là, de François Legault qui dit, hey, on devrait, là, le fédéral, fermez-nous ça de suite, la frontière? Vous en pensez quoi, vous?
Ouais, je vais pas faire mon avocat du diable, mais c'est sûr que moi, j'avais acheté mon voyage au mois d'octobre.
Ouais.
Puis j'ai loué un condo. Mais si ça se fait refaire avec ce qu'il dit là, je serais pas parti.
C'est ça. Hey, merci beaucoup, Stéphane. Merci bien.
Bien.
On va s'arrêter ici. Pause. On va parler à un prof en droit constitutionnel parce que il y a toutes ces questions-là. On a-tu le droit de fermer la frontière? On n'a pas le droit? Dans quelles considérations peut-on le faire? Et puis, vos commentaires, bien sûr. Tina, reste avec nous encore un petit peu. Je veux qu'elle nous dise d'ailleurs qu'est-ce qu'il y a sur son formulaire qui peut décourager les voyageurs. Dites-moi si vous avez encore du plaisir à faire des plans de voyage, puis si vous y pensez. Nous, on a fait un sondage avec l'aide de Somme et ne serait-ce que pour la semaine de relâche, les Québécois sont assez divisés. Là. Les gens disent non, on veut la garder. D'autres disent, autant là, vont dire non, on veut l'annuler. Une chose est sûre, puis la semaine dernière, on en parlait avec deux mamans. Là. Les deux tiers des parents veulent que le congé reste. Mais tu sais, veux-tu passer ton congé au Québec? Pourquoi pas? C'est une belle place quand même. Hein? À tout de suite, tout le monde. Voyage, voyage. Mais c'est vous qui avez peut-être la réponse. Dans la grande région de Montréal, vous me le dites, comment vous voyez toute notre discussion de ce matin sur les voyages, essentiels ou non? Est-ce qu'il faudrait interdire aux Québécois et aux Canadiens de prendre l'avion en temps de pandémie? 514-790-9850, 1-866-790-9850. On a justement une agent de bord qui nous appelle. Merci, Suzy, de prendre le temps. Comment vous voyez ça, vous?
Ben écoutez, moi, ce que j'arrive pas à comprendre dans la société, c'est que moi, je suis agent de bord et je peux pas travailler parce qu'on est en pandémie.
Mm-hmm.
Puis, il y a du monde qui voyage. Alors, je veux dire, moi, j'ai hâte qu'on arrête tout le monde de voyager pour qu'on puisse enfin se débarrasser de cette pandémie-là pour que moi, je puisse recommencer à travailler, comprenez-vous?
Ouais.
Puis, en ce moment, quand le gouvernement dit que c'est pas des voyages essentiels, puis vous vous questionnez à savoir c'est quoi un voyage essentiel, ben écoutez, je pense que le monde devrait un peu utiliser leur common sense, tu sais. Un voyage pas essentiel, là, c'est aller dans le sud. C'est un voyage essentiel, c'est quand tu travailles, t'es obligé de te déplacer à par affaire parce que ton voyage l'oblige. C'est ça un voyage essentiel. Un voyage non essentiel, c'est tout ce qui est s'amuser, tout ce qui concerne l'amusement, fréquenter des amis, voir de la famille, ce n'est pas essentiel en ce moment.
Mais
puis,
par exemple,
je suis agent de bord moi-même, puis je suis prête à vous le dire. Savez-vous, moi, j'ai hâte de recommencer à travailler.
Oui, c'est sûr. Et dites-moi, vous dites, ce qui n'est pas essentiel, c'est aller s'amuser, c'est faire du social, dans le fond, c'est aller voir des amis. Des snowbirds, il y en a beaucoup au Québec, là. Est-ce que ça vous paraît essentiel de dire, ben moi, j'ai un condo en Floride, puis d'habitude, je pars 2 mois d'hiver ailleurs. Est-ce que ça, pour vous, ça pourrait marcher? Non, ça non plus?
Non, c'est pas essentiel, ça non plus. Je pense que à quelque part, il y a des gens dans le monde qui crèvent de faim, qui n'ont rien à manger, puis nous, on n'est pas capable de se priver quelque peu à la maison, une fois de temps en temps dans notre vie, un hiver de notre vie pour une meilleure société à venir.
Oui, je vous comprends tout à fait. Merci, Suzy. Je trouve ça intéressant que ça vienne d'une agent de bord, ce discours-là. Allons tout de suite rejoindre Patrick Taillon. Il est professeur en droit constitutionnel à l'Université Laval. Bonjour, M. Taillon.
Bonjour.
Bon, le gouvernement Trudeau dit qu'il y a un article de la charte là, qui peut empêcher de voyager. C'est évidemment dans des cas extrêmes. La semaine dernière, justement, on avait parlé à un avocat qui travaille des deux côtés de la frontière puis qui disait que, sincèrement, un gouvernement ne peut pas empêcher à ses citoyens, ses ressortissants de rentrer au pays. On verrait mal comment le gouvernement fédéral peut dire aux Canadiens, ben regardez, là, si vous partez, vous rentrerez pas. Ça peut pas être ça, là. Mais est-ce qu'il y a quand même un terrain de jeu possible pour le fédéral pour dire aux gens, justement, qui auraient des envies de voyage non essentiels, regardez, si vous sortez, il y aura des répercussions au retour. Comment voyez-vous ça, M. Taillon?
Ben, les droits et les libertés, ils sont fondamentaux parce qu'ils sont consacrés dans une constitution, ils sont au-dessus des lois, mais ils sont surtout pas absolus. Donc, il faut concilier ces droits-là les uns avec les autres, puis il faut aussi les concilier avec l'intérêt général. Traditionnellement, au Canada, les tribunaux ont une interprétation hyper contextuelle des droits qui sont garantis là-dedans, dont la liberté de circulation. Fait que ça veut dire que on a autant de droits que ce que le contexte permet, puis en temps normal, ça joue en faveur d'un individualisme accru. Là. C'est-à-dire que dans le doute, les tribunaux vont dire Ben, le contexte, là, allez, l'État, faites encore un effort, une exception, un accommodement pour essayer là, le contexte en permet un peu. Et là, ce à quoi on assiste depuis presque un an, c'est l'effet boomerang de cette interprétation axée sur le contexte, c'est que là, tout à coup, le contexte, il permet à l'État une marge de manœuvre hors du commun pour limiter les droits et libertés. Fait que c'est toujours les mêmes critères. Hein, qu'on parle du masque obligatoire à l'école, qu'on parle du couvre-feu, qu'on parle de la possibilité de voyager, les tribunaux, face à une question comme ça, là, ce qui se pose comme question, c'est pourquoi l'État limite les droits et libertés? Mm-hmm. Ici, ça fait pas de débat, c'est assez simple. Et comment il s'y prend? Et là, le choix des moyens, c'est là que ça se joue. Donc, quand le gouvernement Trudeau dit « moi, je peux pas, il y a un article dans la charte qui m'empêche », c'est une excuse commode. En vérité, s'il s'y prend de la bonne manière, ça devrait passer. Et là, tout est dans la manière de s'y prendre. C'est-à-dire que si c'est une interdiction généralisée, ça a moins de chances de passer devant les tribunaux que si c'est une interdiction qui comporte des exceptions. Si jamais on empêche les gens de sortir, mais on les permet de revenir, c'est plus facile à justifier que l'inverse. Bon. Mm-hmm. Donc, les détails, ça compte, mais a priori, les droits sont pas absolus et c'est la même liberté de circulation, c'est la même disposition dans la charte qui s'applique pour la liberté de circulation d'une province à l'autre. Et la bulle atlantique, là, depuis des mois, ouais. Y a des gens qui sont peut-être allés aux îles de la Madeleine cet été puis ont vu que c'était un peu compliqué quand on te passe par le Nouveau-Brunswick.
Ben, t'avais intérêt à pas arrêter, là, sinon tu te faisais peut-être arrêter. Ouais, c'est ça.
Oui, puis ça a pris des semaines à négocier là, cette formule, vous passez sans arrêter.
C'est la province du Nouveau-Brunswick qui l'a décidé. Là.
Oui, les provinces atlantiques ont limiter la liberté de circulation. Le même article, là, sauf que ça concerne les frontières à l'intérieur du Canada, si je peux dire. Et il y a une dame à Terre-Neuve. En fait, non, elle vient pas de Terre-Neuve. Si je me souviens bien, elle vient de l'Alberta, mais elle voulait assister à des funérailles. Là, on n'est pas dans un voyage pour le pur plaisir. Là. Moi, je mettrais ça plutôt dans la colonne des voyages essentiels. En tout cas, des voyages qui sont motivés par quelque chose autre que la recherche du plaisir. Là. Ouais. Et dans ce cas-là, le tribunal à Terre-Neuve dit, écoutez, dans les circonstances actuelles, oui, c'est une limitation à la liberté de circulation, mais elle est conforme aux chartes dans le contexte d'aujourd'hui. Parce que c'est, on a autant de droits que ce que le contexte permet.
Ouais. Mais donc, est-ce que c'est faisable? Mais ce que vous nous dites, c'est que c'est faisable, mais dans des conditions qu'on devrait pouvoir expliquer comme étant extrêmes, là.
Oui, ben nous sommes dans une situation extrême ou exceptionnelle dans la mesure où il y a des variants, donc principe de précaution oblige. Faut faire attention avec les nouvelles formes qui peuvent apparaître sur le territoire. Et du moment où on dit ben oui, la liberté ma liberté d'aller passer la semaine de relâche dans un tout inclus dans le sud, elle existe. Mais en revanche, le droit à la vie et à la sécurité de celui qui voit ses traitements en oncologie reportés ou remis ou tout simplement annulés, ça aussi, ça existe. Donc, à quelque part, l'intérêt général transcende. Là. Et là, ici, du moment où l'État est capable de prouver là, que au fond, c'est souvent une analyse comparative. Hein. Il y a le pourquoi puis le comment. Et sur le comment, ben, ce que vont faire les tribunaux vont dire, ben, c'est quoi la solution de rechange?
Ouais,
pour permettre à telle personne d'aller vivre ses vacances dans le sud, là, si on permet ça, est-ce que l'État a d'autres options? Et c'est là que le gouvernement Trudeau est un peu en une situation de faiblesse, parce que depuis des mois, la voie normale pour gérer la frontière dans une situation là, de risque sanitaire comme en ce moment, c'est la loi sur la quarantaine. Comme on faisait au 19e siècle, là, on mettait les nouveaux arrivants sur une île, puis on les laissait là 40 jours, etc. Mais nous, depuis le début au Canada, on pratique une demi-quarantaine, une quarantaine un peu volontaire, où on dit aux gens, allez chez vous, on va vous appeler. Bon, et on le voit là en Nouvelle-Zélande, en Australie, des pays assez comparables à nous, la quarantaine est prise beaucoup plus au sérieux. Fait que le risque pour le gouvernement Trudeau, dans le débat sur le comment ou le choix des moyens, c'est possible qu'un tribunal lui dise, écoutez, là, avant d'interdire les voyages, peut-être que vous devriez explorer, réquisitionner des hôtels, puis mettre les gens pour de vrai dans des hôtels pendant 10 à 14 jours, je sais
vous
pas.
Vous parlez de la Nouvelle-Zélande, puis c'est ce qu'ils font, puis c'est aux frais du monde qui voyage, c'est 200$ par jour, puis en attendant qu'ils aient des tests négatifs. Fait qu'il y a d'autres
et
pays.
Et soudainement, la définition de ce qui est essentiel ou non, là, ben c'est presque chaque individu qui est en mesure de la faire, parce que si soudainement il y a un coût, c'est sûr que c'est peut-être injuste sur le plan économique. Là, c'est pas tout le monde qui a les moyens de se payer une quarantaine à l'hôtel, mais même les gens qui sont très fortunés, s'ils ont les moyens de se payer ce séjour de 14 jours à l'hôtel, ils ont souvent pas le temps. Donc, à quelque part, là, que ce soit pour des raisons de temps ou d'argent, en organisant une véritable quarantaine, probablement là, que le tri se ferait tout naturellement entre ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas.
Voilà.
Mais que ce soit la vraie quarantaine ou une interdiction conçue intelligemment puis qui se défend, je pense que le gouvernement, c'est évident que le gouvernement Trudeau peut en faire plus. Puis là, ça a ajouté une dose de complexité hier parce qu'on voit des gouvernements provinciaux, dont M. Legault, qui commencent à dire, ben s'il ne le fait pas, nous, on va peut-être envisager nos propres options.
Ouais. Mais qui pourrait être quoi pour le Québec? Qui pourrait être quoi comme option pour le Québec?
Ben, c'est sûr que si le fédéral veut interdire ou encadrer voyage, il y a la compétence, puis il faut juste qu'il fasse attention à la question de la Charte canadienne des droits. Dans le cas du Québec ou de l'Ontario, peu importe, eux autres, il faut aussi qu'ils soient habiles sur le plan du partage des compétences. On est dans une fédération, chacun a ses responsabilités. Fait que Québec, sa responsabilité dans ça, c'est toutes les affaires locales, puis la santé publique. Fait que Québec peut pas arriver puis dire « moi, je vais m'inventer un contrôle douanier ». C'est pas sa compétence. Donc, sa capacité à faire appliquer une interdiction de voyager, elle est limitée là, en droit. Donc, Québec, quand Québec dit on va envisager nos options, probablement que ce qu'ils font, c'est essayer de mettre de la pression sur Ottawa. Mais indirectement, je donne un exemple, là, vous voyez, c'est d'une efficacité assez relative. Mais c'est sûr que Québec a la compétence pour dire les agences de voyage sont de commerce non essentiel et on exige leur fermeture en temps de crise sanitaire.
Mais donc, ça n'empêchera pas au Expedia de ce monde de vendre des voyages par Internet.
Évidemment, ça ferme la petite boutique du coin, mais ça, bon. Mais à partir du moment où Québec a la compétence de nous dire, vous restez chez vous, d'une certaine manière, Québec a la compétence d'encadrer la circulation à l'intérieur du Québec.
Ben, on le voit avec
donc,
le couvre-feu.
Oui, comme à travers le couvre-feu. Donc, à quelque part, quand Québec dit on envisage nos options, il s'agit probablement d'options qui font en sorte que ça va nous rendre la vie compliquée. Ça va être bien difficile de se rendre à l'aéroport.
Ouais,
mais Québec peut pas arriver à l'aéroport puis dire, voici, maintenant, il y a un contrôle québécois à l'accueil. Parce que s'ils le font, ils vont le faire quelques jours, comme un peu la ville de Montréal avait décidé d'envoyer des gens pour distribuer de l'information aux touristes au printemps dernier. C'était pas de la compétence de la ville, mais la mairesse voulait marquer le fait qu'Ottawa était négligent, puis elle voulait poser un geste, puis ça ira jamais devant les tribunaux.
Ouais.
Alors, est-ce que Québec pourrait faire un coup d'éclat de ce type? Probablement, mais point de vue là, strictement constitutionnel ou juridique, la marge de manœuvre de Québec pour tout ce qui touche l'extérieur, la frontière, les douanes, c'est évidemment une marge très réduite, voire inexistante.
Voilà, ben c'est très clair, Patrick Taillon. On avait besoin de ces clarifications-là. Merci beaucoup. Ce que je retiens de ce que vous dites, finalement, c'est que avant de donner à Québec le pouvoir de le faire ou avant qu'ils le prennent, il y a d'autres façons. Puis c'est peut-être à la responsabilisation de tout le monde encore qu'il faut faire appel, la responsabilité de chacun. Vous parliez de droit de liberté. Mais avec ça, là, nos droits viennent aussi des obligations, dont celle de penser à son prochain. Merci beaucoup, Patrick Taillon, professeur en droit constitutionnel à l'Université Laval. On s'arrête ici, très courte pause. On vient tout de suite après. Alors, c'est intéressant ce qu'on vient d'entendre de Patrick Taillon, qui est spécialiste en droit constitutionnel, puis qui nous mettait le cadre un peu d'action que les gouvernements ont à leur disposition. Évidemment, on comprend que c'est finalement au fédéral que revient cette décision. Il y avait une auditrice que j'ai... La voix du gros bon sens, ça m'est apparu comme ça quand elle a dit à mon collègue Paul Arcand tout à l'heure, mais s'ils veulent pas que les gens voyagent, qu'ils interdisent ces voyages, c'est vrai que ça paraît simple comme ça. En même temps, ça serait quand même dommage de pénaliser tout le monde parce qu'il y a une petite frange de gens qui ne respectent pas les mesures sanitaires. Puis je pense qu'on a compris après 10 mois qu'il y en aura toujours du monde qui voudront rien savoir. Fait qu'il faut vivre avec. Est-ce qu'à cause de ça, tout le monde doit payer puis qu'on doit fermer les aéroports, fermer les frontières? Je pense que la question se pose, puis il faut peut-être faire attention avant, comme l'a fait M. Legault, là, de pogner les nerfs. Puis, je sais pas si vous avez entendu hier, quand j'ai pogné les nerfs, on s'entend qu'il est à bout, là. D'ailleurs, quand il parle, on comprend bien, juste savoir les expressions qu'il utilise. Il voit ça, puis il est découragé, parce que d'autre côté, il est obligé de gérer des cas de COVID, des vaccins qui arrivent pas. Écoutez juste un peu ce qu'il nous redisait là-dessus.
On a parlé en privé avec le gouvernement fédéral, mais là, il est le temps d'agir. Je comprends que M. Trudeau dit comme nous que c'est pas idéal, mais là, on n'est plus dans des souhaits, on n'est plus à allumer des lampions. Là, on est vraiment à l'étape d'agir.
Agir. Comment? Ben, Tina Beaulieu, qui est propriétaire de l'agence Voyage NTR, nous disait tout à l'heure, ben, moi, j'ai un questionnaire. Je fais une bonne job, hein, Tina, de décourager les clients, même si elle me disait tout à l'heure, puis c'est vraiment pas drôle, Tina, beaucoup de gens compatissent. En même temps, ils disent, ben, les agents de voyage, c'est comme les restaurateurs, hein, finalement. Ils se trouvent à payer les frais, payer le prix aussi de cette pandémie. Mais vous, vous dites, moi, j'ai un questionnaire, puis là-dedans, il est assez heavy metal que les gens ils pensent à deux fois, oui.
Ben écoutez, je peux vous donner juste une phrase qui est inscrite, je vais vous le dire dans ma façon de vous la lire. Là. Si les gens, au résultat de leur test à destination, si le test revient positif, les clients sont pris en charge à la destination à laquelle ils sont. Juste cette petite phrase-là, là, les gens, des fois, ça leur fait peur, parce que s'ils sont pris en charge là-bas deux semaines, et ils ont une autre deux semaines de confinement à leur retour ici. On s'entend qu'ils sont un mois. Ouais. S'ils ont un travail, quoi que ce soit. Juste cette phrase-là, des fois, là, quand je leur lis, ça les... Oh, mon Dieu, c'est vrai, j'ai pas pensé à ça, si je suis positif. Tu sais, mais c'est certain, on le sait pas.
Mais prise en charge, ça sous-entend aussi qu'on paye pour eux ou vous leur faites bien comprendre que c'est à leurs frais, mettons, là?
Il y a des gens qui ont des assurances selon le voyage qu'ils ont acheté.
Ouais.
Mais il y en a aussi, ils ont acheté juste seulement qu'un vol, supposons. Ils n'ont pas d'assurance. Mm. Ou il y en a qui en ont, mais la majorité en ont pas. Alors, c'est à leur charge.
Ouais. Oui, allez-y.
Excusez-moi. Si les vols sont annulés, exemple de Montréal qui décide de fermer l'aéroport, les gens sont pris à destination comme on a connu en mars et avril dernier. Mm. Il y en a beaucoup, c'est à leur charge de revenir ici. Là. Ou s'il n'y a pas de vol du tout, c'est le propre moyen de se débrouiller à destination. Fait que toutes ces petites phrases-là que j'ai mises dans mon formulaire, que j'ai fait approuver par un avocat, comme quoi que j'étais en droit de le marquer, les gens, ça leur fait peur. Moi, je leur fais signer le formulaire avant de faire l'achat, avant de conclure mon achat.
Est-ce qu'il y en a qui ont changé d'avis en lisant le questionnaire?
Bien sûr, j'en ai qui ont changé d'avis. Surtout avant la période des fêtes, je vous dirais la semaine précédant Noël, les départs de Noël, oui, il y en a qui ont... oui, j'étais bien contente qu'elle ait changé d'avis, effectivement, oui.
Ben, il faudrait l'envoyer à Justin Trudeau, votre questionnaire.
Non, j'ai pas...
Pour lui suggérer une coupe d'affaires, si ça décourage.
Un conseiller en voyage, un agent de voyage, non.
Mais vous savez, on parle beaucoup, Tina, hein, du modèle néo-zélandais. Là, beaucoup d'auditeurs me font part de ce modèle-là, puis on en a parlé depuis une semaine, on en a parlé la semaine dernière à mon émission. Là, les gens peuvent continuer de voyager. Puis on sait qu'en Nouvelle-Zélande, ils ont réussi vraiment à contrôler le virus, en tout cas. Mais contrairement à ce qu'on fait, nous, chez nous, en Nouvelle-Zélande, on les garde pas mal à l'œil, les voyageurs. Alors, dans un premier temps, on leur dit « Personne ne va monter à bord d'un avion à destination de la Nouvelle-Zélande sans avoir en sa possession un forfait hôtelier. Tout citoyen qui a décidé de se payer des vacances à l'étranger doit payer 2 800 $ canadiens à peu près là, pour être en isolement. C'est un séjour en isolement obligatoire. » Donc, c'est à peu près 200 $ par jour, jusqu'à temps que tu puisses prouver que tu es COVID-free, que tu n'as pas de COVID. Donc, est-ce que ça, vous pensez qu'on devrait appliquer le modèle de Nouvelle-Zélande au Canada?
Oui, effectivement, ça serait une très bonne... Oui, ça serait très, très bien. Par contre, ici au Québec, malheureusement, avec les forfaits qu'on vend vraiment pas cher, il y a des gens qui n'ont pas les moyens. Fait que c'est vraiment compliqué. Ouais. Les gens qui achètent un petit voyage à Cuba à 549 $, est-ce que vous pensez qu'ils vont être prêts à payer cette somme-là pour faire une quarantaine ou peu importe?
On peut-tu aller à Cuba pour 549 $?
Oui, madame. Oui, ma chère dame. Oui, ces temps-ci, il y a des très, très, très bons spéciaux pour aller à Cuba, effectivement, oui. Mais tu sais, c'est ça. Fait que les gens qui vont acheter ce voyage-là, 549, si on met un couple qui part à 549, ça fait 100 $ pour les deux personnes. Ils ne seront pas prêts à payer cette somme-là pour faire leur quarantaine ou autre. Vous savez, les gens ici achètent des voyages bas de gamme. Puis comme vous le disiez tantôt, si nous, les agences qui ont pignon sur rue, vont acheter quand même dans les grands sites, là, dans les... qu'on connaît tous, en a mis leur nom. Fait que, tu sais, c'est très difficile. Pour nous, en tant que propriétaires d'agences de voyage, c'est sûr que oui, on veut pas que ça aille. Mais moi, qu'est-ce que je souhaite, c'est que ça ferme pour quelques mois et qu'on reprenne. Si on reprend au printemps prochain, si on reprend à l'été prochain,
Et parce que les gens qui aiment voyager, on s'entend que si ils ne peuvent pas voyager cet hiver 2021, mais que ça reprenne, ils vont vouloir partir.
Moi, j'ai
une grande clientèle qui a juste le OK
ben,
et on part.
Mais moi, ce que j'ai de la misère à comprendre, Tina, puis je vais vous laisser là-dessus, là, oui. Le temps file, mais le voyage à 549, il valait combien l'année dernière avant la pandémie? C'est une affaire qui valait genre 1200 ou 1300?
Non, je vous dirais que ça valait peut-être 998 000 $ Puis bas,
Non, ça veut dire qu'on coupe les prix pas mal.
Ben oui, on coupe les prix pas mal. Et on s'entend que les compagnies qui vendent ces voyages-là, ils partent écoutez, ils vendent à perte.
Mais pourquoi vendre à perte?
Ben, c'est parce qu'ils veulent pas partir les avions vides. Ouais. Partiriez-vous avec un vol où 10 personnes dans l'avion? Non. Alors, ils vendent à perte pour essayer de remplir un petit peu leur vol. Ouais. Mais c'est ça, je me dis, nous, dans le domaine du voyage, on est tous affectés. Fait que pourquoi qu'une fois pour tout, quelques mois, je sais que c'est plate pour les gens qui veulent partir, mais pour quelques mois, qu'ils arrêtent tous les vols non essentiels et qu'on revienne à la normale le plus vite possible, c'est tout ce qu'on souhaite.
Merci.
Écoutez, moi, je suis une personne qui voyage 2, 3, 4 fois par année, même avec des très gros groupes, et on a tous hâte de repartir. Mais il faut que ça... C'est ça, il faut mettre une loi disant, ben on fait un petit sacrifice quelques mois et on repart en grande...
Il faut que ça soit clair. Il faut que ça soit clair, puis il faut que ça soit clair surtout pour ceux qui ont tendance à pas comprendre. Merci beaucoup, Tina Beaulieu, propriétaire de l'agence Voyage NTR. Merci bien. On s'arrête ici. Très courte pause, on vient tout de suite après. Je suis en compagnie de Paul Arsenault, qui est expert en tourisme. Il est professeur au département de marketing de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Bonjour, Paul.
Bonjour, Isabelle.
Bon, c'est compliqué, cette histoire-là, finalement. C'est pas aussi simple que si tu veux pas que les gens voyagent, ben, t'as juste à l'interdire. On a compris qu'il y avait quand même un cadre. Il y a des façons de faire qui doivent être en respect des chartes des droits et libertés de tout le monde. En même temps, la liberté de tout le monde s'arrête supposément là où commence celle de l'autre. Mais bon, ça a l'air d'être un concept variable parce que pour certains, les voyages non essentiels, ils ont besoin qu'on leur dise ce que c'est. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, vous, Paul, là-dessus, par rapport à tout cette question-là qui est un vrai débat qu'on a aujourd'hui au Québec?
En fait, ça ne devrait même pas être un débat. C'est très simple. C'est d'une rare simplicité. En partant, ça n'existe pas un voyage essentiel ou un voyage non essentiel. Dans le sens où le gouvernement canadien et provincial semble nous en parler. Ce qui est essentiel ou pas, c'est la présence de quelqu'un dans un avion. Dans un même avion, on peut avoir des gens qui sont essentiels, des gens qui ne le sont pas. Première des choses. C'est-à-dire, on peut imaginer que quand on va vers Cuba, la totalité des gens, puisqu'il n'y a pas de Cubains qui viennent vers le Canada, on peut penser que ce sont essentiellement donc des gens qui vont pour des raisons de voyage d'agrément dans un tout inclus. Et là, on pourrait avoir deux approches. Effectivement, on pourrait avoir une première approche qui dirait « nous l'interdisons ». Je pense que les tour opérateurs, les compagnies aériennes et même les agences de voyage, j'aimerais ça que ça soit clair.
Ouais.
On peut ou on ne peut pas. Parce qu'actuellement, on est dans une espèce de situation un peu aberrante. Ça ressemble un peu au tabac. Vous avez le droit d'acheter des cigarettes, mais on met des images horribles dessus, puis on vous tape sur les doigts, puis on le cache derrière le comptoir. Si ce n'est pas une bonne idée, si la décision de santé publique dit « on ne doit pas voyager », on le fera. Et le gouvernement canadien n'a pas hésité. Quand il y a eu un nouveau variant en Angleterre, les vols ont été coupés sur l'Angleterre du jour au lendemain. Ça a été fait en disant le risque pour la santé publique est trop grand et on ne bougera pas. Donc, je trouve ça intelligent de l'avoir fait. Maintenant, on a aussi un problème, c'est que, contrairement aux compagnies de cigarettes que je parlais tout à l'heure, les compagnies aériennes, c'est des actifs stratégiques pour le Canada. Là, c'est pas un détail. Il n'y a pas juste des gens qui se promènent pour le plaisir. Il y a des voyageurs d'affaires, il y a du cargo, il y a des rencontres. Et en plus, on va rajouter un petit degré de complexité, il n'y a pas juste des compagnies canadiennes, il y a des compagnies étrangères. Donc, si on explique à la France tout d'un coup que, écoutez, vous n'avez pas le droit de voler actuellement, les frontières sont fermées, les Français ne peuvent pas, par exemple, je vais prendre un exemple, venir au Canada sans des raisons essentielles, c'est la façon dont on a réglé le problème. Donc, il n'y a pas de voyageurs d'agrément qui peuvent venir ici. Fait que là, il y a une espèce de petit jeu, évidemment, qu'on comprend entre le provincial et le fédéral, à savoir qui portera l'audicieux de prendre cette décision-là. Cela dit, excuse-moi, je parle beaucoup, mais c'est
intéressant parce que tout le monde a son cas de figure. Je pense, j'essaie de voir, en vous écoutant, Paul, il y a plein d'images qui me viennent, puis là, j'en ai reçu des commentaires, je continue d'en recevoir tous les jours de gens qui me font part de leur situation personnelle. J'ai quelqu'un qui m'écrit, il me dit, ben, hey, moi, je déménage aux États-Unis. Là, j'allais revenir au Québec déménager mon stock. Là, ça a l'air que François Legault dit que si le fédéral le fait pas, lui va le faire. Ça veut-tu dire que je peux pas aller chercher mes affaires? Moi, je me dis, ben là...
Absolument pas. Ça, on parle de la Constitution, c'est un argument qui est fallacieux, c'est-à-dire que la santé publique, une décision de santé publique peut passer par-dessus le droit individuel à sortir du pays. Ça, il n'y a aucun doute là-dedans.
Je pense qu'au-delà de la raison, je pense que oui. Paul, parce qu'il nous reste 2 minutes, mais je pense que, est-ce qu'on pourrait dire toutefois, puis c'est même là, parce que moi, au début, ça me paraissait clair. On dit, ben, il n'y a pas de tout inclus. Tu peux pas y aller dans des tout inclus. Mais en même temps, il y a des gens qui peuvent aller dans un tout inclus. Est-ce qu'on formait une quarantaine? Donc, c'est pour ça que je disais que c'était pas si simple non plus.
L'Australie l'a fait. On pourrait dire la chose suivante. On aiderait l'hôtellerie québécoise et montréalaise.
Ouais.
Quand tu reviens de certaines destinations, tu as l'obligation de faire une quatorzaine dans un hôtel désigné à tes frais. L'Australie l'a fait. Pour une famille de 2 adultes, 2 enfants, c'est puis le dollar canadien est à peu près au pair avec le dollar australien, ça va coûter de 4 à 5 000 $. Alors, tu payes l'hôtel pour être là et tu dédommages le gouvernement. Et comme ça, on est sûr que tu as bien fait la quarantaine et que quand tu pars, tu es sans risque. Mm. J'ai une étudiante qui est au Rwanda, elle m'a écrit ce matin, elle me disait « Le Rwanda oblige tous les étrangers qui arrivent à rester à l'hôtel à leurs frais jusqu'à temps qu'ils aient le résultat positif ou négatif de leur test. » Donc, il y a des moyens.
Si mais là, il y a tous les réfugiés, il y a tous les ressortissants, il y en a du monde qui rentre, là.
Enfin, ceux qui rentrent ont été autorisés, là. On rentre dans la logique d'essentiel, là. Si vous avez le statut de réfugié, parce que vous ne pouvez pas partir. Les frontières canadiennes sont fermées. C'est ça le paradoxe un peu. Mais on est d'accord. Au chapitre des étrangers, ils ne peuvent pas. Les frontières sont fermées en mars dernier. Ils n'ont toujours pas réouvert. Donc, la question est davantage de dire, et c'est une clientèle très pointue, et c'est suite au reportage du Journal de Montréal dans le temps des fêtes, ce sont des gens, les Canadiens, qui reviennent des tout inclus. C'est ça la problématique, hein, mais je trouve qu'en même temps, on fait semblant, comment dire, on parle de façon très abstraite. La réalité, c'est ces gens-là, et je pense qu'il existe une façon de le faire. C'est-à-dire, si c'est pas illégal, obligeons une certaine forme de quarantaine, et voilà, et ça va terminer. Parce que
pour vous, c'est le modèle néo-zélandais, dans le fond, qu'on met en place au Canada.
Clairement, parce qu'actuellement, le problème est le suivant, c'est que les gens ne la font pas, la quarantaine, les gens ne sont pas diligents, et à un certain moment donné, en plus, les gens pouvaient même récupérer une prestation d'urgence. Je pense qu'il faut juste changer le fardeau de la preuve, ou sinon, on le ferme, mais il y aura des conséquences. Juste le fait de la médiatisation qui a été faite des gens qui revenaient du Sud a eu un impact. Les compagnies aériennes, là, il y a un certain nombre d'avions. À partir du moment où un certain nombre d'avions ne peut plus voler, de vols ne se font plus, ça veut dire qu'ils mettent des gens à pied, ça veut dire qu'il y a des routes vers les États-Unis, il y a des routes au Canada qui vont tomber. Puis c'est pas parce qu'ils font de la rétorsion, c'est parce qu'ils ne peuvent pas opérer. Les avions ne font pas juste, comment dire, un vol essentiel, ça n'existe pas, un voyage essentiel, ça n'existe pas. Et donc, il y a des impacts. Et il y a, si on regarde juste la compagnie Porter Airlines, ça fait un an qu'elle ne vole pas. Elle dit qu'elle va commencer en mars, elle ne sera pas capable de recommencer. Aux États-Unis, le gouvernement américain a mis 65 milliards pour aider ses compagnies aériennes. Le gouvernement français a mis 7 milliards dans Air France. Le gouvernement néerlandais a mis 3,5 milliards dans KLM.
Et nous?
On peut pas. Nous, on n'a rien mis. On a la prestation canadienne d'urgence. Et voilà.
Et c'est ça qui n'a pas de bon sens. J'ai plein de témoignages de gens qui travaillent dans l'industrie, qui est sous respirateur artificiel, ils me disent. Puis, sincèrement, bon courage, là, je sais pas. C'est une autre industrie très frappée par cette pandémie. Merci beaucoup, Paul Arsenault, expert en tourisme à l'École des sciences de la gestion du CAM. Après les nouvelles, on parle de la situation aux États-Unis.